passionné d'art urbain, de boutons de manchette et de véloconomie, Guillaume Lavoie n'a pas fini de vous surprendre.
Au fédéral, justement, quand on n'est pas en train de s'occuper des juridictions provinciales, de temps en temps, il y a des idées qui sont éminemment d'une mission nationale ou pan-canadienne qui émergent. Et il y a cette idée de relier Toronto à Québec avec un système de train qui est digne d'un pays du G7 plutôt que d'être d'un pays du Moyen-Âge quand il est question du ferroviaire au Canada. On dit souvent le Canada c'est un très grand pays, c'est pas comme l'Europe. On oublie de dire que plus de 50% de la population entière du Canada vit entre Toronto et Québec sur cet axe-là. Donc on a toutes les conditions réunies pour avoir véritablement un projet structurant ferroviaire. Et là vont s'affronter, et c'est dans le débat public ces temps-ci, est-ce qu'on fait un TGF ou un TGV? Ben, pour être capable de faire l'ABC du TGF ou du TGV, on en parle avec Pierre Barriot, qui est expert en planification des transports et chargé de cours à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Barriot.
Bonjour, M. Lavoie.
Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous là, rapidement, là, quelle est un peu la différence, ou qu'est-ce qu'un TGF, puis qu'est-ce qu'un TGV?
Alors, un TGF, c'est un terme qui désigne à des trains qu'on appellerait en Europe des trains locaux. Alors, c'est-à-dire, c'est des trains qui circulent à une vitesse maximale de 200 km à l'heure, en fait 199 km à l'heure, et qui sont en mesure d'opérer sur les voies ferrées conventionnelles, c'est-à-dire celles qui existent déjà, avec des mises à jour relativement mineures. Donc, quand on va aller plus rapide que 199 km à l'heure, on tombe assez rapidement dans le TGV. Alors là, c'est plus le train à grande fréquence, c'est le train à grande vitesse. Et le train à grande vitesse, ça dépend des juridictions, mais habituellement, on parle de trains qui circulent plutôt de 300 à 350 km à l'heure. Et ces projets-là nécessitent des investissements qui sont bien plus significatifs.
Et là, pour ancrer ça dans le réel chez nous, Montréal-Toronto, par exemple, qui prend au jour d'aujourd'hui un peu plus de 5 heures, en TGF, ce serait toujours à peu près le même temps, mais évidemment avec plus de départs, plus d'arrivées, parce que là, ça fait un peu dur. En TGV, donc grande vitesse, on serait autour de 3 heures à peu près, j'imagine.
Et peut-être un peu moins, tout dépendamment jusqu'à où M. Trudeau est prêt à dénouer les coffres publics, parce que on serait en mesure d'avoir même un train qui prendrait environ 2 heures et quart si on se construisait la Mercedes ou la BMW des services.
Mais avant de voir lequel des deux est le plus pertinent, un des drames particuliers du ferroviaire au Canada, c'est que le public ne possède pas l'emprise. On possède pas les rails, ils appartiennent à des sociétés privées, que ce soit le CP ou le CN. Est-ce que si on faisait un TGV, est-ce qu'il faudrait faire une autre emprise loin des rails actuels? Puis, est-ce que c'est faisable, ça?
Mais justement, c'est le problème du TGV, c'est que les trains de TGV ne peuvent pas circuler sur des voies ferrées où il y a d'autres trains qui circulent parce que le différentiel de vitesse est trop grand et les normes de sécurité ne le permettent pas. Il faut donc construire des voies ferrées qui sont parallèles aux existantes. Mais en plus, il y a un autre élément qui est significatif, c'est le rayon de courbe. Les trains de style TGF sont en mesure de prendre les courbes existantes, mais les TGV, ça tourne trop carré. Donc, ça nécessite la construction de nouvelles courbes qui nécessitent des expropriations, des déménagements, des ponts, des viaducs, des ponts supplémentaires.
Donc, faut que ça, un TGV doit être ce qu'on appelle en site propre.
Exactement.
Une fois qu'on comprend mieux la différence entre un TGF puis un TGV, est-ce que toute chose est égale par ailleurs? Il y en a un qui est mieux que l'autre? Parce qu'une des théories en transport collectif, c'est la fréquence qui fait qu'on embarque plus. Hein? Parce que, par exemple, là, je prends l'exemple puis vous me direz si ça fonctionne, le métro versus l'autobus. L'autobus est un très mauvais service parce que la fréquence est pas assez bonne, parce que c'est moins prévisible, alors que le métro passe à des fréquences beaucoup plus régulières et comme ça, il est plus attractif. Est-ce que on a raison de considérer un TGF ou non? Le TGV, maintenant, dans le monde dans lequel on vit, c'est vraiment la chose, le nouveau standard.
Bien, vous voyez, vous mettez votre doigt sur le problème de l'analyse actuellement entre TGV et TGF. L'analyse actuelle et le paradigme de par lequel le gouvernement fédéral oblige les projets à être analysés, c'est que les projets doivent être économiquement rentables et autosuffisants. Donc, le TGF, vu qu'il est, coûte beaucoup moins cher, on est en mesure de vendre beaucoup plus de billets. Et vu qu'on vend beaucoup plus de billets, on peut augmenter la fréquence. Le TGV, vu qu'il coûte cher, très cher à construire, il faut que les billets soient beaucoup plus élevés le prix. Et dû au fait que les prix sont tellement chers, on est juste capable d'offrir 5 ou 6 départs par jour.
Mais...
alors, si on décidait d'enlever de l'équation le coût de l'immobilisation, mais juste les coûts d'opération, on pourrait avoir un TGV au demi-heure. Mais malheureusement, le gouvernement, nous, dans son carcan d'analyse, nous force à faire la décision entre un lent train fréquent ou un train rare rapide.
Ben, et j'ai l'impression que c'est deux mauvais choix, parce que ce que j'entends que vous nous dites, c'est que l'idéal, ce serait un TGV, donc un train à grande vitesse et à grande fréquence. Puis là, ben, et le fait que Michael Sabia soit là-dessus, là, qui est le père de tous nos problèmes avec le REM, ça me rassure pas. Mais d'où vient cette théorie débile qu'il faut que le transport collectif se paye lui-même? Est-ce qu'on devrait pas plutôt réfléchir en termes d'externalité positive, là? C'est-à-dire que puisque les gens vont pouvoir se déplacer plus rapidement, ça contribue au général à améliorer le dynamisme économique d'une région, par exemple. Ce qui est la même chose, pourquoi on construit pas des métros parce que le gouvernement veut faire de l'argent. On le fait parce que sinon, l'économie arrête. Pourquoi est-ce qu'on pense différemment quand il est question des trains?
Je suis 100% d'accord avec vous et c'est vraiment ça qui vient plomber toute la réflexion qu'on a actuellement. Vous savez, quand on a construit la Transcanadienne au Canada, on s'est pas dit si on fait une autoroute à quatre voies, on promet des péages versus si on met un deux voies. Non, on a regardé c'est quoi l'impact du Canada pour le Canada et c'est quoi l'impact pour le long terme pour le développement économique, social, culturel, écologique, etc. Et ici, c'est la question que le fédéral doit sortir de ce carcan des années 90 des PPP et de cette prémisse de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan que l'État ne peut pas faire de projet déficitaire, parce que des fois, oui, l'État doit faire un projet déficitaire parce que c'est pour le bien public.
Oui, c'est ça. On construit pas un hôpital parce que on pense qu'on va faire de l'argent avec ça. On pense qu'une population plus en santé est, là, je réfléchis en rentabilité pure. Une population plus en santé, c'est plus payant.
Définitivement, définitivement. Et pourquoi est-ce qu'on accepte de construire des routes déficitaires, de facto, parce qu'il n'y a pas de péage, mais les transports en commun, dans le cas de Via Rail, on ne l'accepte pas. Et ici, l'idée aussi, c'est de faire une fois un gros investissement, et après ça, la ligne de TGV au demi-heure, on l'a pour 100-150 ans, et elle sera rentable en termes de couvrir ses frais d'opération. Et c'est ça le vrai développement durable si on veut diminuer l'impact de la pollution de la voiture et de l'avion.
Mais on peut imaginer aussi que la rentabilité par le ticket, là, par le prix que l'on paye pour embarquer dessus, c'est un mauvais modèle d'affaires aussi. On pourrait penser, par exemple, plutôt à capter la valeur foncière, parce que si j'ai un TGV qui me permet, de partir de Montréal puis d'aller à Toronto en 2 heures et quelques ou en 3 heures, mais peut-être que vivre à Montréal est encore plus intéressant, parce que bien sûr, personne veut vivre à Toronto. Alors, est-ce que ça, c'est pas une manière de le penser différemment aussi?
100% d'accord avec vous, puis on retournera à l'ancien maire de Québec, le maire Labeaume, qui avait dit que les gens prévenaient de travailler à Montréal parce que c'est là qu'était le milieu des affaires et vivre à Québec parce que c'est là où on faisait bien vivre.
Ben, c'est un peu et ce qui avait sauvé, le parallèle, sûrement que vous le connaissez, la ville de Lille, qui était, puis mes excuses aux amis de Lille, mais qui était vraiment poussiéreuse et ennuyeuse. Et comme elle est presque à équidistance entre Londres et Paris, reliée par des trains de très grande vitesse à relativement haute fréquence, c'est devenu un hub, un centre d'affaires et de résidence extraordinairement prisé.
Définitivement, et c'est certain qu'un projet comme ça va aider les villes de Trois-Rivières, les villes de Kingston, à développer quand même quelque chose d'intéressant. Et même, on pourrait voir justement des gens qui décident de s'établir dans des villes comme Trois-Rivières ou Kingston et travailler à Montréal. Ou on peut voir aussi un couple qu'un travaille à Montréal, l'autre travaille à Toronto. Les deux pourraient s'établir à Kingston, par exemple, et être à moins de 90 minutes de travail pour les deux.
Ce genre de projet-là, malheureusement, c'est un film dans lequel, écoutez, moi, là, je vous partage ça, il y a 20 ans à peu près, je pense que c'était mon premier emploi ou mon deuxième, sur mon bureau, il y avait la proposition, je pense que c'était Via Rail, de faire une espèce de TGV. Ça fait 20 ou 25 ans, là. Est-ce qu'on est encore en train de jouer dans un film qui va finir comme d'habitude, finalement, ça arrivera pas, ou cette fois-ci, ça va aller de l'avant, que ce soit un TGF ou un TGV?
Bien, je vous dirais que présentement, on a vraiment c'est plus juste nos doigts dans l'engrenage, là, on est rendu à l'épaule dans le processus de l'appel d'offres. Les compagnies sont déjà appelées à soumettre des propositions et le gouvernement est en train là est quand même enclenché dans le processus d'approvisionnement. C'est la première fois qu'on se rend là dans l'histoire du Canada. Donc, on n'a jamais été aussi loin. Mais il faut quand même pas oublier, c'est un gouvernement minoritaire et si jamais il y avait des élections et si jamais les libéraux ne retourneraient pas au pouvoir et que ce n'est pas le NPD ou le Bloc québécois qui rentre au pouvoir, si c'est les conservateurs, tout ça pourrait être mis en question et on pourrait retourner à la table des fins. Mais on n'a jamais été aussi proche de la réalisation de ce projet.
Bon, mais comme dirait l'autre, restons optimistes, mais avoir confiance, mais vérifier d'abord. Pierre Barriot, expert en planification des transports et chargé de cours à l'UDM, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. À bientôt.
Plaisir.